Que la paix soit sur toi, ô mon maître, ô messager de Dieu, et sur ta sainte et bénie famille. Que la paix soit sur toi, ô mon maître, ô Abba Abdellah, ô miséricorde de Dieu sur terre, et aux portes du salut pour les cœurs. يا سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالثة لتعجيل فرج صاحب الزمان. Dans ce verset que je viens de lire en arabe, on peut lire, donc la traduction en français c'est: toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Et c'est ensuite vers nous que vous serez ramenés. Et si Allah fait un constat, il nous fait un constat, c'est qu'en fin de compte, cette vie qui est la vie du bas monde va vers une fin. Et cette fin est marquée par la mort. Et donc la mort est une étape que personne ne peut fuir. C'est une étape qui marque le voyage de ce bas monde vers l'au-delà. Et quand on va vers dans les textes religieux, soit le Coran ou bien les hadiths, on voit qu'il y a de la part de Dieu, de la part d'Ahl al-Bayt et de la part du messager de Dieu, bien sûr, une importance assez concentrée sur ce point qui est le rappel de la mort. Puisque c'est une fin qui ne peut pas être évitée, et personne ne peut fuir cette fin, et qu'on va tous vers la même fin, et donc il faut se préparer pour cette fin. Ceci dit, cela nécessite de la part du croyant, qu'il donne à cette fin, à cette mort, une place importante dans sa vie. Et ça passe nécessairement par ce qu'on appelle « dhikrul maut », le rappel de la mort. Et donc ce sera le sujet de notre jour. Bien sûr, on a un hadith dans Bihar al-Anwar, rapporté du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Dans ce hadith, le saint prophète dit aux gens: multipliez les rappels à propos du destructeur des plaisirs. Alors les gens, ils ont dit: ô messager de Dieu, mais que signifie le destructeur des plaisirs, des désirs? Qu'est-ce que cela signifie? Il a dit: la mort. Les plus intelligents individus de ma communauté sont ceux qui se rappellent de la mort et qui s'y préparent. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrit la mort comme étant l'élément destructeur des plaisirs dans ce bas monde. Parce que dans ce bas monde, il y a une série de plaisirs et de désirs. Bon, ils prennent fin avec quoi? Avec la mort. Et ensuite, vers la fin du hadith, il dit que la personne la plus intelligente parmi les croyants, c'est celui qui se rappelle de cette mort. Et également, en conséquence, il s'y prépare. Dans un autre hadith, rapporté cette fois-ci de l'imam Sadiq alayhi salam, dans également Bihar al-Anwar, l'imam Sadiq dit: la mort, le rappel de la mort tue les désirs dans l'âme. Tu as une série de désirs, des désirs naturels. On aura inshallah une soirée sur les désirs de ce bas monde. Parmi ces désirs, il y a des désirs qui sont naturels. Dans tous les cas, le rappel de la mort chez le croyant tue ses désirs. Puisqu'il aime bien ses désirs, mais en même temps, avec le rappel de la mort, il se rappelle que ses désirs ont une fin. Ont une fin inévitable. Ensuite, il continue en disant: le rappel de la mort également arrache les racines de l'inconscience. Quand tu vis dans ce monde, dans ce bas monde, t'es pris par la routine. T'es pris par les problèmes quotidiens de la vie, de tous les jours. Et des fois, tu plonges dans ce qu'on appelle l'inconscience. T'es plus conscient de ce qui t'entoure, de la fin de ce monde, etc. L'imam dit: deuxièmement, le rappel de la mort arrache les racines de l'inconscience. Troisièmement, l'imam continue en disant, il renforce le cœur par les promesses de Dieu. Ça, c'est un troisième élément qui est positif. Le rappel de la mort permet de renforcer et d'apaiser les cœurs par quoi? Par les promesses de Dieu. Parce que c'est vrai que la mort, c'est pas facile. Mais normalement, si un croyant obéit à son Seigneur, il y a après la mort les promesses de Dieu. Et donc, on comprend par ces deux hadiths que le rappel de la mort est essentiel dans la vie du croyant. Il n'est pas acceptable qu'un croyant vive dans ce bas monde sans se rappeler, de temps en temps au moins, de la mort. Et donc, normalement, en tout cas en théorie, le rappel de la mort, c'est quelque chose de positif. Et ça permet de créer chez le croyant une réaction positive, qui est le fait d'obéir Dieu, qui est le fait, comme l'imam Sadr dit, de sortir de l'inconscience, d'apaiser son cœur, de se réformer, se repentir. Normalement, c'est une réaction positive. Mais en pratique, on voit pour la plupart des gens, dont moi, je ne suis pas une exception, la mort, en vérité, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Et le rappel de la mort n'est jamais quelque chose d'assez, on va dire, joyeux. Et ça peut même provoquer en nous une réaction négative. Le stress, la déprime, certains ont même des crises existentielles quand ils pensent à la mort. Et donc, aujourd'hui, on voudrait voir quelques causes qui créent ce genre de réaction négative chez le croyant. Alors qu'on a vu que normalement, c'est quelque chose, ça doit créer une réaction positive. Et on va voir quelles sont les solutions de ces problèmes. Bien sûr, si je parle dans notre cadre à nous, le cadre des croyants, on croit en Allah. Alhamdoulilah, on croit en l'unicité. On a été honoré par Dieu dans le fait de croire en cette religion. Dans le fait de croire dans le message du messager de Dieu. Et là où il y a d'Ahl al-Bayt. Et donc, je ne parle pas d'autres cas, par exemple le cas des athées. Bon, pour l'athée, la mort, c'est le néant. Bon, ça, c'est un autre problème. Ça, il faut le régler, il faut voir sa situation. Mais non, je parle du cadre du croyant qui, en vérité, dans son cœur normalement, il croit que il y a la mort, il y a l'après-mort, l'au-delà. Donc, voyons ces causes qui provoquent la peur du rappel de la mort. Premièrement, il y a quoi? Il y a la peur de la punition dans l'au-delà. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés, enfin, beaucoup de gens, tout le monde en fait, sauf exception. Les prophètes et les imams, ce sont des exceptions. La plupart des gens commettent des péchés. Des péchés plus ou moins grands, et puis d'autres bêtises. Et donc, beaucoup de gens ont peur du rappel de la mort parce que ça les rappelle la punition à venir après la mort. Et donc, on n'aime pas être rappelé d'une punition qui va arriver. Donc, c'est compréhensible. Cette peur est compréhensible. Dans un hadith rapporté par l'imam Sadr, alayhi salam, l'imam Sadr le rapporte dans le Kafi. Oui, c'est bien dans le Kafi. Le rapport d'Abu Dhar. Donc, c'est pour comprendre également le statut qu'avait Abu Dhar. Abu Dhar, le fameux compagnon du prophète. C'était l'un des compagnons pieux du prophète qui sont restés fidèles au prophète après son martyr. Contrairement à la majorité des compagnons. Et l'imam Sadr, dans sa grandeur, rapporte ce hadith ou cette histoire à propos d'Abu Dhar. Donc, on comprend déjà la position qu'avait Abu Dhar auprès d'Allah. L'imam Sadr dit qu'un jour, un homme est venu chez Abu Dhar al-Ghifari. Il lui a dit, « Ya Abu Dhar, pourquoi a-t-on peur de la mort ?» Une bonne question. « Pourquoi a-t-on peur de la mort ?» Abu Dhar a répondu, « Parce que vous avez construit ce bas monde et vous avez ruiné l'au-delà. Et donc, il est normal que vous n'aimez pas d'être déplacé d'un endroit prospère à un endroit qui est en ruine. C'est quelque chose de logique. Tu as passé tout ton temps à détruire l'au-delà. C'est normal que tu ne veux pas voyager vers un endroit qui est en ruine. Donc c'est une peur, comme je l'ai déjà dit, qui est compréhensible. Mais est-ce qu'elle est justifiée? Elle n'est pas justifiée normalement. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de péchés. Et tous les êtres humains font des péchés. Mais en même temps, Allah, jusqu'à la fin, jusqu'à ta mort, accepte ton repentir. Allah est miséricordieux. On aura dans deux nuits un discours spécifiquement sur ce sujet de la miséricorde de Dieu. Tu ouvres le Coran dans tous les sourates, à part sourate Tawbah. Dieu commence, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a 99 noms. Il a 99 noms, mais il en a choisi deux qui reflètent cette miséricorde. Allah accepte le repentir. Alors cette peur, c'est vrai qu'elle est compréhensible, mais elle n'est pas justifiée. Tu as devant toi un Seigneur qui est miséricordieux, qui est clément, qui accepte le repentir. Dans le Saint-Coran, le Saint-Coran nous relate l'histoire d'Ibrahim et il nous rapporte également ses paroles. Ibrahim, dans le Coran, ses paroles sont rapportées. Il dit وَقَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Ibrahim dit: qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés? La miséricorde de Dieu, elle est vaste et étendue. Imam Ali dans Dua Kumail, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Je te demande par ta miséricorde qui s'est étendue à toute chose. Et donc cette peur est compréhensible, mais elle n'est pas justifiée. Parce que la miséricorde de Dieu est vaste et elle accepte tout le monde. La deuxième cause qui peut provoquer la peur du rappel de la mort, c'est l'amour de l'immortalité. L'amour de l'immortalité est l'illusion de l'éternité. L'être humain, par sa nature, il aime bien l'immortalité. Il vit dans ce bas monde et il voudrait continuer à vivre dans ce bas monde avec ses amis, avec ses projets, avec ses relations, avec ses voisins. Il voudrait bien que ce bas monde reste éternel et qu'il y soit immortel. Et donc, quand pour cette catégorie de gens, quand on les rappelle la mort, ça provoque en eux une sorte de rejet ou une sorte de peur. Et encore une fois, c'est également compréhensible, mais ce n'est pas justifié. Parce que l'immortalité existe. Elle existe bien. L'éternité existe bien, mais pas pour ce monde, pour l'au-delà. Pas pour ce monde, pour l'au-delà. Dans le verset que j'ai lu au début, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit « Toute âme goûtera à la mort, et ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. » Donc oui, ce bas monde n'est pas éternel, mais après ce bas monde, il y a l'au-delà qui est éternel. Ça, c'était la deuxième cause de la peur du rappel de la mort. La troisième cause qui provoque une sorte de peur du rappel de la mort, c'est le fait que les gens, ou certaines personnes en tout cas, ne réfléchissent pas au futur lointain. Ils sont pris par, on va dire, le rouleau de la routine et la vie quotidienne, et avec ses soucis, hein, comme on dit, boulot, dodo, métro, bon, avec sa famille, ses enfants, etc. Il n'a plus le temps pour ces éléments, pour ces choses. Et des fois, ça va vite. Bon, il passe toute une vie comme ça. Il passe toute une vie comme ça. Et le problème, c'est que même s'il va vivre 70, 60, 80 ans dans ce monde, bon, ça passe très vite. Ça passe extrêmement vite. Et donc la solution pour ce genre de personnes, c'est également de les rappeler les versets coraniques qui existent sur la mort, les hadiths qui existent sur la mort. Parce que si tu lui parles, toi, peut-être personnellement ou même par la logique, ça peut pas, parfois ça ne le touche pas. Mais si, on a dit au début qu'on parle ici dans le cadre d'un croyant, si tu le parles en utilisant les références religieuses, ça peut le toucher et ça peut toucher son cœur. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. Maintenant, on va aborder un autre aspect. La sérénité face à la mort. Quand on étudie la vie des prophètes et la vie des imams, on est touché par le fait que ces gens ont toujours été sereins face à la mort. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Quand même des fois des savants, des grands savants, etc., ils n'arrivent pas à ce niveau. Ce n'est pas facile que lorsque, par exemple, tu es touché par une maladie ou par la vieillesse et tu vois clairement que la mort est en train de venir, d'être serein. Ce n'est pas quelque chose de facile. L'imam Ali dans Nahj al-Balagha, il dit, par Dieu, il commence en jurant, par Dieu, le fils d'Abu Talib est aussi familier avec la mort que l'est le nourrisson avec le sein de sa mère. Il dit, le nourrisson directement après sa naissance, quand il le met sur la poitrine de sa mère, il sait comment manger, comment boire ce lait. Subhanallah, c'est Dieu qui a mis cet instinct en lui, comme ça ce petit nourrisson peut se nourrir et grandir. Et personne n'a rien enseigné à ce petit nourrisson. Pas des cours dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui a mis cet instinct. Imam Ali dit, moi avec la mort, je suis aussi familier que ce nourrisson. Si elle me vient maintenant, je suis prêt. Elle peut venir demain, je suis prêt. Et en effet, l'histoire relate que lorsqu'il a été blessé dans le mois de Ramadan, il était dans une sérénité incroyable. Il est même relaté qu'il a crié par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. J'ai gagné maintenant le martyr qui vient conclure, qui vient donner une conclusion à ma vie qui a été dans le sentier de Dieu. Il était serein. Il n'avait aucune peur vis-à-vis de la mort. Et donc, comment arriver à ce niveau de sérénité face à la mort? Alors, comme on l'a dit, ce n'est pas facile. Seulement les prophètes et les imams, et peut-être certains élus qui arrivent à ce stade. Mais les savants ont présenté une série de comportements, une série d'actions qui peuvent nous aider à nous rapprocher de cette sérénité. Premièrement, ils ont dit Al-Tafakkur. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Thani ala Hubbi al-Hassan wa al-Hussein. الثالثة لتعجيل فرج صاحب الزمان. Donc on a dit premièrement al-tafakkur, méditer, réfléchir sur la mort. Des fois on passe des années, on n'a jamais même réfléchi une minute sur la mort. Les savants ont dit le fait de méditer ou réfléchir sur la mort, même si c'est une minute dans ta journée. Tu as 24 heures dans une journée, consacre une minute à la réflexion et la méditation à propos de la mort. Même si c'est une minute avant de dormir, par exemple. Tu es sur ton lit, tu réfléchis. Dans la journée, tu as beaucoup d'occupations. Eh bien, consacre au moins une minute à toi-même, à réfléchir sur l'au-delà. Deuxièmement, ils ont dit « al-dhikr », le fait d'invoquer Allah. Le fait d'invoquer Allah. Le fait d'invoquer Allah, tantôt c'est ce qu'on appelle « dhikr » dans le cœur, et des fois non, c'est de façon verbale. De façon verbale, c'est de répéter les noms d'Allah. C'est le fait de répéter « Alhamdulillah »,« Subhanallah », par exemple. L'invocation, le « dhikr » par le cœur, c'est le fait de tout le temps être soumis à Allah, de jamais désobéir à Dieu. Ça également, ça aide à se rapprocher d'un état où de sérénité face à la mort. Dieu dit dans le Saint-Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est seulement par l'invocation de Dieu que les cœurs s'apaisent. Parmi les façons de faire du dhikr, une façon enseignée par le prophète qui est assez simple, Tasbih al-Zahra. 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Subhanallah. Après les prières obligatoires. D'ailleurs, l'histoire derrière Tasbih al-Zahra est assez intéressante. Je ne sais pas si on a le temps. Mais pour résumer, Sayyida Fatima al-Zahra, elle était fatiguée par les tâches ménagères. C'est normal, c'est la situation de beaucoup de femmes. Ils passent par un moment, ils sont extrêmement fatigués des tâches ménagères. physiquement et mentalement. Quelque chose de normal. Donc elle est allée chez le prophète, elle a dit, je voudrais bien que tu m'envoies une serviteuse qui m'aide dans la maison. Reste avec moi, elle m'aide. Surtout avant, ce n'était pas comme avant. Il avait les habits par les mains, tout était fait manuellement. Maintenant, on a des machines. Bon, ça aide beaucoup. Le prophète ne pouvait pas lui donner une serviteuse. Pour X ou Y raisons valables. Bon, il n'en avait pas peut-être de disponible. Ou peut-être par peur d'accusation de favoritisme. Ou pour d'autres raisons. Dans tous les cas, il lui a alors dit, je vais te donner quelque chose d'encore meilleur. Il lui a enseigné cette façon d'invoquer Allah. Ce qu'on appelle Tasbih al-Zahra. Et en effet, en résultat, elle a pu surmonter ses difficultés. Parce que des fois, tu donnes une aide physique. La serviteuse l'aurait aidé. Mais dans d'autres cas, tu donnes une aide spirituelle. Et ça, bien sûr que ça influence. Ça peut même des fois jouer un rôle encore plus important que l'aide physique. Et donc, on a dit, le deuxième élément, c'est al-dhikr, invoquer Dieu. Le troisième, c'est la science. La recherche de la science, elle renforce les cœurs sur le chemin de la vérité. Et ça, on a beaucoup de textes religieux qui affirment ce point, bien sûr. On a un très magnifique hadith où le prophète dit « Une heure dans la vie d'un savant qu'il la passe sur son lit en train de réfléchir sur sa science est meilleure que l'adoration d'un adorateur pendant 70 ans. » Ici, sous-entendu que cet adorateur n'est pas un savant, c'est également un ignorant. La science et la recherche de la science renforce les cœurs sur le chemin de la vérité. En résultat, ça peut aider pour être serein face à la mort. Il y a beaucoup d'exemples d'adorateurs mais ignorants qui étaient égarés. Le plus grand exemple qu'on a dans l'histoire, c'est les Khawarij. Khawarij, il est rapporté qu'il lisait le Coran nuit et jour. Il priait encore plus que les autres. Mais on a vu le résultat. Des égarés qui ont combattu l'émir des croyants et qui avait même un comportement incroyable. C'est-à-dire qu'il considérait que l'imam Ali était mécréant. Le dernier élément qui peut aider pour arriver à cette sérénité face à la mort, c'est l'action. Bon, le zikr, le tafakkur, la science, tout ça sans action, ça ne sert à rien. Science sans action, ça ne sert à rien. Parce que l'action, c'est le résultat de ce qu'on vient de mentionner. Et donc, le dernier élément, c'est l'élément de l'action. L'action, concrètement, c'est quoi? C'est qu'au niveau de mon akhlaq, au niveau de mon éthique, je m'améliore. De mon comportement avec les autres, je m'améliore. Au niveau de ma pratique religieuse, je m'améliore. Au niveau de tous les domaines ou tous les aspects de ma vie, je m'améliore. Qu'il y ait un résultat au niveau de l'action. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est la nuit d'Al-Qasim, alayhi salam. Al-Qasim, fils d'Al-Hassan. Et c'était l'emblème de cette sérénité face à la mort. L'emblème de la sérénité face à la mort. Il est rapporté que le soir de Ashura, la nuit avant le jour de Ashura, il a vu l'imam al-Hussein parler du martyr et parler avec les autres du martyr. Mais il n'a pas parlé avec lui sur le martyr. Donc al-Qasim est allé chez l'imam al-Hussein et lui a dit « Oh mon oncle, est-ce que demain je vais tomber en martyr avec vous ?» Al-Hussein lui a alors demandé « Oh mon neveu, comment est-ce que tu vois la mort ?» Il a dit « Oh Hussein, la mort auprès de toi est encore plus bonne que le miel. » Il est arrivé à ce niveau de sérénité face à la mort. Là, ce que je viens d'expliquer théoriquement sur la sérénité face à la mort, lui, il est arrivé à ce niveau dans la pratique. À un niveau, il dit, « Oh mon oncle, la mort auprès de toi est encore plus bonne que le miel. » Le jour de Ashura, il est rapporté que lorsqu'il a vu que plusieurs de ses proches et plusieurs de ses cousins sont tombés en martyr auprès pour Al-Hussein. Également, plusieurs compagnons sont tombés en martyr pour Al-Hussein. Al-Qasim, qui était le fils d'Al-Hassan, et qui a été éduqué par Al-Hussein. Donc, c'est le résultat de cette éducation par Al-Hassan et Al-Hussein, deux frères imams infaillibles. Il est allé chez son oncle et a dit: Oh mon oncle, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller combattre les ennemis de Dieu? D'aller combattre les ennemis de Dieu. L'imam al-Hassan lui a dit: Je te donne cette autorisation. Al-Qasim est allé faire ses adieux à sa mère et à ses tantes. Et ensuite, il est allé dans le champ de bataille. Le rapporteur des événements, qui s'appelle Humayd bin Muslim, a dit: Nous avons alors vu un Hachimite s'avancer dans le champ de bataille. Il avait une posture redressée, dans sa main une épée. Il avait une sandale déchirée. Le rapporteur se rappelle de cet élément. Il s'élança alors dans le champ de bataille. Il est rapporté qu'il a tué extrêmement beaucoup d'ennemis. Ensuite, l'un des ennemis de Dieu l'attaqua, s'élança vers lui, elle l'attaqua, il lui donna un coup fatal. Al-Qasim est tombé et a crié: Oh mon oncle, oh mon oncle. Alors l'imam al-Hussein s'élança vers le champ de bataille. Il les combattit et il tua cet homme qui frappa Al-Qasim. Et ensuite il prit Al-Qasim et dit: Oh mon grand-père, ils viennent de tuer l'un de tes enfants. Alors venge-nous auprès d'Allah. Ensuite, il ramassa le corps d'Al-Qasim, il le mit à côté du corps de Ali al-Akbar. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein.